Pourquoi demeurez-vous oisif toute la journée? Vous aussi, venez à ma vigne. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le cycle liturgique de cette année fait donc chevaucher le temps de l'épiphanie avec celui de la Septuagésime en raison de la date avancée de Pâques. Et c'est pourquoi également nous fêtions à peine il y a 2 jours la conversion de Saint Paul et déjà nous voilà à la Septuagésime. Il y a donc un curieux mélange, si je peux dire, puisque déjà l'Alléluia nous quitte, la couleur violette apparaît, alors que la crèche est encore là jusqu'au 2 février. Et voilà que retentit, avec le dimanche de la Septuagésime, l'appel de notre Seigneur des ouvriers à la vigne. Eh bien, cet appel, l'Église le réitère au moment du carême. L'Église réitère cet appel qui n'est autre que l'appel à la conversion. Il y a 2 genres de conversion. Celle qui nous fait changer de direction et celle qui, tout en nous faisant progresser dans la même direction, nous fait changer complètement ou partiellement d'intention intérieure. Pour mieux le comprendre, il faut d'abord comprendre ce que veut dire le terme de conversion. Ce terme vient d'un mot latin, d'un verbe latin, cum vertere, c'est-à-dire se tourner vers. Et en matière de religion, se tourner par excellence vers Dieu. La conversion consiste donc à se tourner vers Dieu, à se tourner vers tout ce qui touche les attributs de Dieu, c'est-à-dire vers la vérité, vers la justice, vers la sainteté, vers la sagesse et vers toutes les autres vertus qui ne sont que des attributs de la grandeur divine. Si l'on fait bien attention à ce terme, lorsque l'on se tourne vers quelque chose, c'est que l'on ne le regardait pas. Quand je me tourne pour regarder vers quelque chose ou vers quelqu'un, c'est que jusque-là je ne regardais pas. Donc je change de direction mon regard ou mon intention, et au lieu de le porter sur ce dont je le portais jusqu'à maintenant, je le porte dans une autre direction. Je détourne mon regard, mon intention de telle chose et je le porte sur une autre chose. Voilà ce que c'est que la conversion. Et l'opposé de la conversion, c'est l'aversion. Et en effet, la conversion est à l'opposé du péché. Et saint Thomas d'Aquin nous dit que le péché est une aversion de Dieu. C'est-à-dire le fait de se détourner de Dieu pour se tourner vers les créatures. On ne pense plus à Dieu, on se tourne vers des objets créés, vers des biens matériels, temporels, vers des plaisirs passagers, et à force de se tourner vers ces biens temporels, eh bien, on en oublie de regarder Dieu. Voilà le péché. La conversion, au contraire, on est plongé dans ces biens temporels, matériels, etc. On se rend compte qu'on a oublié Dieu, on en éprouve de la douleur, on se détourne de ces biens matériels en tant qu'ils nous sont un obstacle dans le regard vers Dieu, et on se retourne vers Dieu. Voilà la conversion. Alors, il y en a de deux genres. Celle qui nous fait changer d'orientation et de route, qui exige un changement carrément de vie, et celle qui, tout en gardant la même direction, nous fait seulement changer intérieurement, surtout au niveau de l'intention. Nous en avons diverses figures dans la Sainte Écriture, et puisque nous sommes encore un petit peu, en quelque sorte, au temps de l'épiphanie, eh bien, on a une belle figure dans les mages. Les mages étaient portés à regarder les étoiles, ils étaient en admiration devant la création, et dans la création, ils regardaient parmi les choses les plus parfaites que sont les constellations célestes. Et le bon Dieu a permis que la lumière leur vienne par une étoile extraordinaire. Et alors, ils ont changé d'orientation et ils se sont tournés vers le Messie, vers le roi qui devait naître en Israël, et ils se sont même mis en marche pour aller vers lui. Et puis, comme l'étoile les conduisait, elle passait auprès de Jérusalem. Ils ont dit, mais puisque nous allons chercher un roi des Juifs qui avait été prédit, évidemment, nous voilà proches à Jérusalem, c'est là que l'étoile voulait nous conduire. Et sans plus regarder l'étoile, ils vont à toute allure vers Jérusalem, ne se rendant pas compte que l'étoile, à ce moment-là, cesse de progresser pour leur montrer qu'ils font fausse route. Et ils rentrent dans Jérusalem et ils se mettent sous la dépendance d'Hérode et de sa cour. Hérode, qui, vous le savez, représente le démon sur le plan mystique. Et les voilà détournés de Dieu, tout en ayant eu pourtant une bonne intention, mais en ayant fait passer leur désir avant la lumière de la volonté de Dieu. En ayant fait passer leurs a priori avant les jugements de Dieu qui ne sont pas semblables à nos jugements, à nous. Néanmoins, comme ils étaient de bonne intention, le bon Dieu permet que, grâce à la Sainte Écriture, grâce aux commentaires de cette Écriture par les saints docteurs, le bon chemin leur soit de nouveau indiqué, et les voilà et qui se remettent en marche vers Bethléem. Et alors, aussitôt, ils retrouvent l'étoile. Et ils viennent et ils adorent l'enfant Dieu dans la crèche. Et comme ils doivent retourner dans leur pays, qui sur le plan mystique, cette fois, représente le ciel, il ne convient pas qu'ils reviennent par ce chemin détourné qu'ils ont pris. Et c'est pourquoi l'ange leur apparaît dans la nuit pour leur dire, il faut que vous retourniez par un autre chemin. Et voilà le premier genre de conversion. Le premier genre de conversion implique un changement radical de vie. On était baigné dans le péché, on était baigné dans des occupations qui nous détournent complètement de Dieu et qui, même avec la bonne, plus belle volonté du monde, ne peuvent pas ne pas nous détourner de Dieu. Eh bien, alors, il faut se couper de ces occupations parce qu'elles sont incompatibles avec le fait de se tourner vers Dieu. Et ça, la conversion à ce niveau-là exige la rupture et la coupure avec la vie et les habitudes passées. L'autre genre de conversion, qui est celui auquel l'Église nous invite plus particulièrement en temps de carême, car elle espère que nous n'ayons pas besoin d'une conversion plus radicale, c'est un changement quant à l'intention intérieure, mais en gardant la même direction. Et sur le plan mystique, il faut rester sur le plan mystique sans penser toujours à la matérialité des faits. C'est comme ça que font les saints docteurs pour commenter toujours l'Écriture. Saint Paul va à Damas pour persécuter les chrétiens. Il est rempli de zèle pour la loi de Dieu, pour la loi de Moïse. Pour lui, le Christ est un imposteur, ceux qui le suivent sont des rebelles contre la loi de Moïse, et donc il faut qu'il les châtie. Il a déjà participé à la lapidation de Saint-Étienne, eh bien ça ne lui suffit pas, il prend des lettres patentes des grands prêtres, et il va à Damas pour arrêter les chrétiens. Croyons bien faire. Et alors, il marche vers Damas, et il est terrassé par la grâce de Dieu. Et voyez, sur le plan symbolique, encore une fois, Dieu ne lui demande pas de changer de route. Il ne demande pas, par exemple, de retourner à Jérusalem. Il va vers Damas, il continue à aller vers Damas, mais par contre, il lui demande de changer complètement d'intention intérieure. Et voilà Saint Paul arrivant aveugle pendant 3 jours à Damas, baptisé par Ananie, qui l'instruit dans la foi, et au bout de quelque temps, Saint Paul à Damas fait tout le contraire de ce qu'il s'était proposé de faire. Et il commence à prêcher dans les synagogues pour le soutien des chrétiens en disant « Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'était vraiment lui le Christ que nous attendions, celui que nous ont annoncé les prophètes. C'est lui le Messie. » Donc voilà symboliquement figuré le changement intérieur sans le changement de direction. Le premier changement, encore une fois, on peut en donner un autre exemple très clair, c'est par exemple le changement que Saint Rémy demande à Clovis au jour du baptême. Baisse la tête, Pierre Sicambre, commence par t'humilier devant Dieu. Et ce n'était pas tellement son genre jusque-là. Et ensuite, il lui dit, changement radical dans votre vie, au prince. Ce que vous avez honoré, vous allez brûler, toutes les idoles, et ce que vous allez brûler, les églises et autres, vous allez commencer à l'honorer. Changement radical de vie. L'autre genre de conversion, par exemple, Sainte Thérèse d'Avila, et dans son monastère, elle s'est déjà convertie une première fois dans son adolescence. Elle aimait à lire des romans de chevalerie, parce que ce n'était pas des romans malpropres comme on peut en trouver maintenant, mais c'était des romans de chevalerie, de galanterie, etc. Eh bien, première conversion dans cette jeune adolescente, elle se coupe de ses romans de chevalerie et elle se donne à Dieu dans le cloître. Changement de direction. Deuxième moment dans sa vie, elle passe une 20aine d'années dans son couvent à mener la vie d'une religieuse ordinaire. Et au bout de ce temps-là, elle comprend que elle s'est laissée aller à la monotonie de la vie quotidienne et au relâchement qu'il y avait dans les Carmels à cette époque. Et elle se dit, ah non, c'est pas possible, je suis pas rentré au Carmel pour passer mes journées au parloir avec les grandes dames ou les beaux messieurs qui viennent nous voir toute la journée. Non, c'est pas pour ça que je suis rentré au Carmel. Il faut que je change de vie intérieure, non pas extérieurement, puisqu'elle menait déjà toute la règle du Carmel. Il faut que je change de vie intérieure. Et il y a dans sa vie, à ce moment-là, un retournement complet vers Dieu. Eh bien, voilà le genre de retournement auquel l'Église nous appelle en tant que carême. Ce retournement, il peut être simplement une plus grande ferveur dans les actes que nous faisons. Il peut être aussi une véritable petite conversion intérieure. Admettons, nous marchons dans la bonne voie, Mais que de détournements dans notre vie. Tous les péchés véniels sont des détournements de la volonté de Dieu. Et que dire des péchés mortels qui nous coupent radicalement de Dieu et qui exigent une véritable conversion? Si je suis plongé dans l'injustice en volant mon prochain d'une manière ou d'une autre, par exemple, je suis commerçant et puis j'emploie des poids truqués qui sont plus lourds que ce qu'ils indiquent pour faire payer plus cher. Qu'est-ce que c'est? C'est du vol, c'est de l'injustice. Eh bien, je dois me détourner de l'injustice et me tourner vers la justice, rendre à chacun ce qui lui est dû, peser comme il faut. Si je suis dans la gourmandise, eh bien, je dois me tourner vers la sobriété, vers la continence. Si je suis plongé dans la volupté et l'impureté, eh bien, je dois me détourner de cela et me tourner vers la pureté. Si je suis enclin très facilement à la colère et à ne plus savoir me dominer, eh bien, je dois me détourner de cela et me tourner vers la patience, vers la douceur réelle qui est une force et non pas une faiblesse. Si je suis rongé par l'envie de ce que possèdent les autres, de ce que je n'ai pas moi, que ça soit des qualités spirituelles, que ça soit des biens matériels, j'envie, eh bien je dois me détourner de l'envie et je dois me tourner vers la générosité, vouloir du bien à autrui, et non seulement vouloir du bien, mais le lui faire. Si je suis porté à l'orgueil, à la suffisance, eh bien je dois me détourner de l'orgueil, de la suffisance et me tourner vers l'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. Et voilà pour tous les vices capitaux et ceux qui sont moins capitaux, et qui sont contraires à Dieu, qui lui est la souveraine justice, la souveraine vérité, la souveraine douceur, la souveraine bonté, en même temps la souveraine puissance, la souveraine justice. Si je suis dans l'erreur, si je fais fausse route, je suis dans une mauvaise voie, je dois quitter cette voie et me remettre dans le bon chemin. Voilà ce que c'est que la conversion. Et voyez, je prendrai un dernier exemple dans l'Écriture. Les apôtres avaient chacun un métier avant d'être appelés par notre Seigneur. Et ils ont suivi notre Seigneur, ils ont tout quitté. Et là, eh bien, ils ont fait en quelque sorte, on peut dire, une conversion de la première nature qui était radicale. Certains d'entre eux étaient déjà sur la bonne voie, c'était les fils de Zébédée, Jean et son frère Jacques, c'était Pierre et son frère André, qui tout en faisant leur crabe au quotidien, ils étaient pêcheurs, ils allaient sur le lac de Génézaret, ils ramassaient des poissons, puis ils les vendaient. Ne mettez pas ce qui concerne la vie de l'âme, puisqu'ils étaient disciples de Saint Jean-Baptiste et qu'ils allaient régulièrement suivre les prédications ou les retraites prêchées par Saint Jean-Baptiste. Mais certains autres, comme Saint Matthieu par exemple, il était publicain, c'est-à-dire percepteur d'impôts, agent du fisc, avec une organisation qui, à l'époque, impliquait en grande partie des irrégularités, des actes faux, et de voler en quelque sorte ceux sur lesquels il percevait. les premiers n'ont eu qu'à augmenter, à se convertir dans le second sens, si vous voulez, se détourner de leur filet et suivre notre Seigneur. Mais ils étaient déjà dans la bonne voie, puisqu'ils étaient déjà derrière Saint Jean-Baptiste. Tandis que Saint Matthieu, il a eu à faire une conversion radicale. Et pour bien le marquer, il a invité tous ses anciens amis, il a invité aussi notre Seigneur à un banquet, et il a fêté avec ses anciens amis la rupture avec sa vie passée et l'union à notre Seigneur. Eh bien, vous voyez, quand notre Seigneur est ressuscité, qu'il leur a dit « Allez me précéder en Galilée, là je viendrai vous voir », ils sont rentrés en Galilée, et comme les apôtres, ils savaient que l'oisiveté est la mère de tous les vices, ils ne sont pas restés là à rien faire, ils ont repris leur ancien métier. Et voilà, à nouveau, Pierre, Jacques et Jean, et André, dans la barque, et voilà aussi que Saint Matthieu vient avec eux. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils pouvaient retourner à leurs anciennes occupations, elles n'étaient pas mauvaises, tandis que Saint Matthieu ne pouvait plus le faire sans s'empêcher, sans aller contre sa conversion. Mais imaginez que quand ils sont retournés à leur filet, ils n'y sont pas retournés du tout de la même façon. Ils ont été complètement transformés intérieurement par les 3 ans de vie qu'ils avaient menés avec notre Seigneur, et d'autre part, ils étaient prêts, dès que notre Seigneur leur demanderait de faire autre chose et de repartir pour prêcher, eh bien, à s'y remettre. Donc, voyez, on voit très bien dans leur exemple ces deux exemples de conversion. Eh bien, pour terminer, c'est le deuxième exemple, deuxième genre de conversion qui nous importe le plus. Dans l'oraison de la fête de la conversion de Saint Paul, Saint Paul nous est offert par l'Église comme modèle de ceux qui se convertissent. Et il est dit, par son exemple, gradiamur acte. Le terme latin gradiamur, ça veut dire monter par degré vers vous. Ben voilà ce que c'est qu'une conversion. On a toujours besoin de se convertir. Les apôtres faisaient déjà bien, ils allaient vers Saint Jean-Baptiste. Premier élan de conversion. Ils suivent notre Seigneur. Deuxième élan de conversion. Notre Seigneur leur demande à un moment de retourner vers leur filet, mais ils ne le font plus du tout de la même façon. Et puis notre Seigneur les rappelle pour aller prêcher l'Évangile dans le monde entier. Et puis notre Seigneur leur demande encore un peu plus, puis encore un peu plus, puis à la fin il leur demande leur sang. Il leur demande le martyr, le témoignage jusqu'au sang. Et il le donne. Autrement dit, à chaque fois qu'on est dans la vie, on a par étapes à monter plus haut. Et à chaque fois, pour monter plus haut, eh bien, il y a des obstacles. Et ces obstacles, eh bien, au fur et à mesure que le bon Dieu nous montre les obstacles et qu'il nous montre qu'il veut qu'on les quitte, il faut les quitter et se tourner vers Dieu. Alors attention, ces obstacles, il faut les quitter principalement en esprit et pas forcément en acte. C'est-à-dire que si on peut, par exemple, avoir l'esprit de pauvreté sans quitter ses grandes richesses, eh bien, on peut très bien mener une vie de pauvreté avec des grandes richesses. C'est ce qu'a fait, par exemple, Saint Louis, qui était le roi de France, qui avait des grandes richesses, et qui, tous les jours, à sa table, servait de ses propres mains, il jouait le serviteur, il se tenait debout, il était le roi, et il venait servir 12 mendiants avant son propre repas à lui. Il pouvait rester riche, c'était son rôle même de rester riche en tant que roi, et il avait l'esprit de pauvreté, il venait même leur laver les pieds et autres. Et donc, les obstacles, c'est surtout notre attachement au bien terrestre, quant à l'intention, quant à l'esprit. Si on arrive à s'en détacher en esprit sans avoir à s'en détacher en fait, c'est pas toujours nécessaire, et même, encore une fois, le cas Saint-Louis nous montre que certaines fois, il faut rester, en fait, attaché à certaines choses, tandis qu'en esprit, il faut en être dégagé. Si par contre, on voit que on peut pas, on n'arrive pas à s'en dégager en esprit si on ne s'en dégage pas en fait, alors il faut s'en dégager en fait aussi, et de façon à ce que l'esprit puisse monter plus haut. Et au fur et à mesure, eh bien, par degré, on va monter, et on suivra le bel exemple que nous a donné Sainte Thérèse d'Avila dans les trois degrés que je vous ai cités tout à l'heure. Eh bien, demandons à Notre-Dame de nous obtenir cette disponibilité à la grâce de Dieu. Demandons-lui de savoir nous détourner des biens de la terre, et si vous regardez dans votre missel le nombre d'oraisons qui nous demandent de nous détourner des biens de cette terre, au moins en esprit, pour nous tourner vers Dieu, vous serez surpris que presque un jour sur trois, soit dans l'oraison principale, soit, c'est-à-dire la collecte, soit dans les deux autres oraisons de la messe du jour, presque toujours, il y en a une qui mentionne ça. Ça montre que c'est vraiment l'essentiel de la religion, et si l'Église nous le rappelle avec cet évangile, pourquoi restez-vous oisifs toute la journée? Il ne s'agit pas de l'oisiveté des activités de la terre, il s'agit de l'oisiveté de la vie intérieure, de la vie spirituelle. Pourquoi ne faites-vous rien dans vos journées? Oh, vous êtes très occupé de choses, de tâches matérielles, etc., toute la journée, et bon. Mais pourquoi êtes-vous oisif dans votre vie intérieure? Où sont vos prières? Où, quand est-ce que vous vous tournez dans votre journée vers Dieu, etc.? Eh bien, cessez donc d'être oisif et venez vous aussi à ma vigne. Voilà l'appel que nous fait la Sainte Église par la bouche de notre Seigneur en cette période de pré-carême, parce que pendant l'année, à cause des biens, on est porté à la routine. Vous voyez, même une Sainte Thérèse d'Avila, ça lui est arrivé dans une partie de sa vie. On est porté à voir ce que le Saint-Curé d'Ars dit, une religion d'habitude et de routine, et on a besoin d'être au moins une fois par an secoué pour nous faire lâcher un petit peu nos occupations terrestres et nous tourner enfin vers Dieu. Eh bien, demandons à Notre-Dame, pour le carême qui va approcher, de répondre à cette grâce, afin que ce carême puisse être un tremplin qui nous fasse monter dans la vie intérieure. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.